Je vous invite à descendre, on va rejoindre un atelier pour vous montrer à quoi ressemble un de ces ateliers de traitement et de travail sur les collections. Donc on va redescendre et aller jusqu'au bout à droite.
Après le Louvre-Lens, voici le centre de conservation du Louvre à Liévin. Pourquoi Liévin? Parce que le Louvre à Paris fait face au risque d'inondation suite aux crues de la Seine. De ce fait, une partie des réserves arrivera dans notre région dans ce nouveau centre de conservation, tout neuf et moderne. Début octobre, une présentation de ce centre a eu lieu avec notamment Franck Riester, ministre de la Culture, ou encore Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Avant d'entendre quelques extraits des discours des nombreux élus présents sur place, suivons la visite avec Brice Mathieu, directeur délégué du Centre de conservation du Louvre à Liévin.
Donc vous avez cette autre circulation qui vient desservir le fond du bâtiment à la partie complètement semi-enterrée, où sont donc les réserves, les majorités des réserves, donc 5 des 6 grandes réserves, on rentre donc par ces espaces et on va aller les visiter après. Pour ceux qui se poseraient la question, vous voyez ces murs un petit peu particuliers qui nous entourent et que vous retrouvez dans tout le bâtiment. Tous ces petits trous servent en fait à gérer l'acoustique de ces espaces, puisque vous vous rendez compte, là vous voyez bien, on est sur des espaces cathédrales et on a un niveau acoustique extrêmement bon, donc c'est grâce à ces revêtements particuliers qui sont aussi du coup une des signatures du bâtiment, puisque quasiment tous les espaces en sont recouverts. Donc on va aller dans l'atelier très grand format. Ici, vous êtes dans l'atelier qu'on appelle très grand format, qui fait donc 320 mètres carrés au sol et qui permettra de dérouler des très grandes tapis, des très grandes tapisseries, des très grandes toiles qui sont aujourd'hui conservées roulées, faute d'emplacement pour pouvoir complètement les étudier et les dérouler donc sur faute d'espace suffisant. Donc ici, on est dans un espace complètement contrôlé climatiquement parlant, comme tous les espaces de centre de conservation. On a une gestion très fine de la température et de l'hygrométrie. Ici, on est vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler sur ces collections hors gabarit. Donc, vous avez des équipements aussi assez particuliers, hein, puisque vous avez un pont roulant au-dessus de votre tête qui permet justement d'aider à la manipulation de ce type de collection très lourde. Des bras d'aspiration derrière qui permettent, lorsqu'on intervient sur un tableau, on utilise souvent des solvants où ça peut générer aussi un peu de poussière. Donc on a besoin d'aspirer ces éléments et de les rejeter à l'extérieur du bâtiment. Donc ça explique les bras d'aspiration qu'il y a juste derrière moi. Une grande pièce aussi également juste derrière là qui est une cabine de vernissage et qui permettra, lorsqu'on restaure un tableau, à la fin on y applique une couche de vernis. Et en général, sur les très grands formats, c'est bien sûr très compliqué d'avoir un endroit où on peut appliquer cette couche de vernis en sécurité pour les travailleurs et pour éviter de propager du vernis partout. Donc on a pu la dimensionner, une cabine qui permettra de vernir des tableaux jusqu'à 4 mètres sur 3, donc on n'a pas ce type d'équipement ailleurs. Toujours en garantissant, lors de l'aspiration, un renouvellement d'air traité en température et en hygrométrie. Donc on a vraiment là un équipement qui permettra de répondre à des besoins qui aujourd'hui ne sont pas couverts au niveau national. Donc il manque encore quelques équipements dans cet espace, mais vous avez exactement l'idée de ce que seront les ateliers. Donc on en a un ici, on en a un à côté que vous pourrez aussi aller voir librement après, qui sont légèrement plus petits, mais celui-là on tient à le montrer parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous pour pouvoir traiter nos hors formats.
Lors de la présentation du Centre de conservation du Louvre, il y avait les discours de nombreux élus et personnalités, notamment Jean-Luc Martinez, président-directeur du Musée du Louvre. Voici un extrait de son discours.
Pour la première fois, nous rassemblons en ce lieu des œuvres dispersées dans 63 lieux différents à Paris et en Île-de-France. Ce pourra être l'objet de découvertes et de redécouvertes de ce patrimoine. Exemplarité, donc, je l'ai déjà dit, en termes d'accessibilité des collections. Ce sont plus de 250 000 œuvres des collections nationales qui viennent ici, en région. Un acte fort d'abord de l'État français, mais également donc de la région pour accueillir ce patrimoine qui appartient à tous les Français et qui sera ici consultable, accessible. Et c'est l'occasion de dire qu'avec cette ouverture de ce centre de conservation, cette ouverture est accompagnée d'un deuxième projet qui est la mise en ligne des collections du Musée du Louvre en cette fin d'année, accessibilité intellectuelle et accessibilité physique. Exemplarité écologique également, le centre en épousant parfaitement la topographie des lieux, bâtiment semi-enterré avec sa toiture végétalisée, dans le prolongement du parc du Louvre-Lens, de cette volonté de la région d'afficher justement le fait de relever ce défi climatique qui est le nôtre. Cela assure à ce bâtiment une grande efficience énergétique. Au sens propre et au figuré, ce centre est un centre vert et c'est une des raisons de l'accompagnement de l'Europe à nos côtés.
Continuons la visite du Centre de conservation du Louvre à Liévin avec son directeur délégué Brice Mathieu et aussi Amish Croquette, un des architectes qui a suivi cette construction.
On retrouve ici, comme partout ailleurs, ces grandes voûtes qui anoblissent un peu ces espaces fonctionnels. Et surtout, on retrouve la générosité d'espace qu'on a cherché à créer. Ces grands volumes, cette lumière, cette énorme baie vitrée qui est vraiment réduite, qui donne le maximum de lumière, avec les stores intégrés et le brise-soleil pour la protection solaire, mais c'est vraiment célébrer ces espaces fonctionnels, l'articulation, la façon dont on traite les réseaux, est célébrée et pas cachée. On cherche vraiment à communiquer à travers l'articulation de ces espaces, la conception même du bâtiment.
Il y a combien de systèmes de voûtes comme ça sur toute la largeur ?
Alors il y a 860 voûtes qui sont posées au-dessus de nos têtes, dans l'ensemble du bâtiment.
C'est comme ça quoi.
Il y en a
20. Donc il y a 20 fils.
20 fils.
Qui au total représente 860 voûtes préfabriquées posées les unes à côté des autres.
20 et demi, puisque une demi-voûte à l'extérieur.
Donc on va poursuivre la visite dans les espaces de logistique.
C'est les mêmes dimensions. Après, il y en a certaines qui ont des ouvertures pour derrière et d'autres qui ont des ouvertures pour le
désenfoncement.
C'est les mêmes.
On peut accueillir deux miroirs en simultané qui permet donc de venir transférer l'ensemble des collections ou les faire repartir derrière hein, puisque bien sûr dans un mouvement de déménagement initial on va beaucoup être dans un sens puisqu'on va remplir les réserves, mais les œuvres sont destinées aussi à retourner à Paris quand ça sera nécessaire ou à être prêtées ou à être déposées ultérieurement. Donc ces espaces ont une suite vraiment logique, hein. C'est une aire de livraison comme on en fait maintenant dès qu'on peut construire un espace de ce type ou quand on refait un musée. On a des espaces de transit, donc l'œuvre elle est sortie de son camion, elle est stockée temporairement dans ces espaces de transit qui sont gérés climatiquement, c'est-à-dire qu'on commence à gérer l'environnement climatique et à stabiliser la température et l'hygrométrie. Ensuite, une fois que l'espace de transit est passé, on arrive dans ce lieu qui est un espace d'emballage et de déballage. Donc on va essentiellement déballer au début, donc on déballe l'œuvre, on la sort de sa caisse et ensuite on va l'acheminer en réserve. Et un espace que nous ne montrons pas aujourd'hui, mais vous avez derrière la quarantaine et l'anoxie, parce que quand on sort une œuvre de son emballage, on a parfois des mauvaises surprises, puisqu'on a soumis parfois des infestations de vrillettes ou de mites ou d'autres insectes. Donc on a besoin de les sortir du circuit courant, de les rentrer en quarantaine, comme n'importe quel navire ou bateau qui reviendrait d'un pays lointain, et ensuite de les mettre en anoxie. Donc l'anoxie, c'est on remplace de l'oxygène par de l'azote, ce qui permet de tuer les insectes présents à l'intérieur de ces œuvres. Donc si l'œuvre est saine au moment de son déballage, elle est ensuite acheminée dans les réserves. Juste un mot aussi sur ce qu'il y a au-dessus de votre tête, hein, le même principe de pont roulant qui permet de manipuler les très gros formats et nous aider à les bouger. Et juste la couleur est un peu particulière, vous allez petit à petit vous rendre compte qu'il y a un code couleur dans ces espaces qui a souhaité RSHP pour pouvoir vraiment marquer et apporter aussi au milieu de tout ce gris des éléments très colorés, donc c'est la raison de cette couleur fuchsia que vous avez au-dessus de votre tête. Et vous allez voir que très rapidement que dans les réserves, on est sur un code couleur rouge.
toujours du côté du centre de conservation du Louvre à Liévin, retrouvons un extrait du discours de Laurent Duporge, vice-président du conseil départemental, aussi maire de Liévin.
Gratitude d'abord, mesdames, messieurs, à la Seine. Vive la Seine! Merci la Seine, ce grand fleuve majestueux français, mais ce fleuve capricieux qui parfois a des crues. Sans la Seine et sans les crues de la Seine, mesdames, messieurs, nous ne serions pas là également aujourd'hui. Voilà, une forme de boutade. Mais oui, sans ce fleuve français, effectivement, et sans ces collections qui étaient aujourd'hui en danger, il n'y aurait pas ce pôle de conservation du Louvre. À cet endroit même, il n'y avait rien, ou presque. Il y avait auparavant une cité minière, une cité de Camuo et de Camuba, qui était occupée non plus par des mineurs, ils étaient tous à la retraite par ce que l'on appelle des ayants droit. Une cité des Camus où mon grand-père résidait, où moi-même je suis allé à l'école il y a quelques mètres de ce pôle de conservation. Et puis, vous l'avez cité, la performance de nos architectes, la performance de nos constructeurs font qu'aujourd'hui, 2 ans après, effectivement, ce bâtiment-là. Je dis architecte, non, il n'est pas français, il est anglais. C'est le cabinet d'architecture Roger Sturck et Harbour, formidable architecte. Quelque part, on se dit que ce bâtiment qui épouse parfaitement les contours de ce terrain qui vous a été cédé par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, eh bien, il a trouvé toute sa place ici, à Liévin.
La visite des réserves du Centre de conservation du Louvre à Liévin continue avec Brice Mathieu, le directeur délégué de ce centre, et Amish Croquette, un des architectes.
Ces espaces sont des espaces de travail où les gens vont travailler, donc on a aussi cherché à en faire des espaces nobles avec ces grandes verrières, surtout dans l'espace de quai de livraison. On cherche à vraiment célébrer tous ces espaces, il n'y a pas d'espace plus noble que d'autres, on célèbre toutes les fonctions du bâtiment.
Merci. On va se rendre dans la réserve qui est juste derrière vous.
Comme je disais, on n'est pas dans le...
Donc vous êtes ici dans une des réserves que dans le jargon on appelle la R2, qui est la réserve des très grands formats organiques et inorganiques. Donc les grandes peintures, les grands tapis, les grandes tapisseries. Vous avez des exemples de tapis et de conditionnement de tapis, en l'occurrence des arts de l'islam et des objets d'art qui sont juste derrière vous, pour vous illustrer un peu la fonction de ce type de rayonnage. Donc là on est sur ce qu'on appelle les cantilevers, donc qui permettent de stocker et conserver des éléments longs sur ces méthodes de rangement. Sinon vous avez des très grandes grilles juste derrière moi, vous avez des grilles de 8 mètres sur 5 pour venir positionner des très grands formats, des peintures, des arts graphiques. Donc là on supporte du 500 kg sur ces grilles en poinçonnement. Pour un petit chiffre sur l'ensemble de ces réserves, on a 14 000 m² de surface de grille pour pouvoir donc conserver l'ensemble de nos peintures et cadres et cartons et grands cartons de dessin. Vous voyez, le code couleur, on le retrouve. Dans les réserves, on est sur du rouge. Et vous allez le voir encore mieux après, la volonté de l'architecte aussi d'avoir vraiment cette cohérence d'ensemble sur le mobilier qui donne cet aspect. Il manque encore quelques façades ici, mais que vous verrez bien après sur à quoi ressembleront ces réserves. Vous avez une très bonne idée de la disposition. Et donc là, on est vraiment dans la plus grande réserve en termes de grand format organique et on a le même type de réserve pour les très grands formats inorganiques.
Retrouvons à présent un extrait du discours de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, à propos de ce centre de conservation du Louvre.
Laurent, où est-ce que la Seine prend sa source? Je fais le malin, mais c'est à Source Seine. En Côte d'Or, je ne le savais pas, j'ai regardé. Mais si vous ne le saviez pas, vous savez maintenant que le Louvre, pour ses réserves prendra sa source ici, à Lens-Livain. Et c'est ce message important que vous êtes venu délivrer, Monsieur le Président, et puis aussi vous, Monsieur le Ministre. Donc des remerciements, tout d'abord, ça a été dit, mais j'aurais insisté, à Jacques Chirac. À Jacques Chirac, c'était voilà 15 ans de cela que la décision a été prise, que le Louvre s'installerait, pardonnez-moi, pas à Lille, mais ici, à Lens, au cœur du bassin minier, au nom, certains parleront de décentralisation culturelle, au nom aussi de sa conception de la culture. Jacques Chirac était un homme de culture, pas d'une culture qu'on étale, pas d'une culture qui rend supérieure, mais d'une culture qui favorise, il était ainsi fait, en permanence, le dialogue et l'ouverture entre les civilisations et les différentes cultures. Il suffit de parcourir la galerie du temps. Un autre remerciement, très clairement, à Daniel Percheron. En politique, on n'est que de passage. Il y a des gens avant vous qui font des choses bien, il y a des gens avant vous qui feront certainement des choses bien. Et il était hors de question, inimaginable, de dire « avant, c'était un désert culturel parce que c'était tout le contraire ». Il y a toujours eu une véritable ambition culturelle, en Picardie c'est vrai, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, pas seulement l'île et son rayonnement, mais ici aussi, autour du bassin minier, mais il fallait lui donner une dimension supplémentaire. Et c'est aussi les talents de visionnaire de Daniel Percheron que d'avoir compris qu'il fallait que la région fasse cet investissement, et sans jouer sur les mots, contribue aussi, comme elle le fait, près de 10 millions d'euros par an au fonctionnement du Louvre-Lens. Il fallait avoir le courage de le faire et la vision de le faire. Et quand s'est posée la question des réserves, Daniel a toujours répondu présent. Il m'a juste dit une chose. Il me dit « t'es meilleur négociateur que moi ». Parce que c'est vrai, que quand je suis arrivé, et je l'assume totalement, une bonne partie de mon équipe ne voulait pas de ce projet, en estimant que comme c'était un projet qui ne serait pas ouvert au public, il ne fallait pas engager la région de cette façon. Je pense que c'était une erreur, parce que même si on n'ouvrait pas au public, cela vient conforter, comme vous l'avez dit, tout un pôle de référence, un pôle culturel, et je reviendrai sur le potentiel de ces réserves. Mais c'est vrai qu'il a fallu, pas convaincre, j'assume tout, mais nous avons rediscuté, renégocié, et nous avons répondu présent, parce que si la région ne venait pas, c'était pas possible aussi pour l'Europe de pouvoir le faire également, et je sais que notre position était clairement déterminante.
Continuons à suivre cette visite du Centre de conservation du Louvre à Liévin avec Brice Mathieu, directeur délégué, et Amish Croquette, un des architectes, et pour toujours découvrir des stockages différents des œuvres du Louvre.
Donc, ici, vous avez une autre méthode de stockage et de rangement de collection, donc avec un système de rack à palettes. Donc avec donc ces éléments qui permettent de stocker donc des œuvres sur palette. Spécificité, ces racks à palettes sont mobiles. Quasiment tout le bâtiment a des mobiliers placés sur des chariots qui permettent de déplacer l'ensemble des rayonnages et de gagner ainsi en largeur d'allée. Ça nous permet d'optimiser la surface au sol nécessaire pour pouvoir ranger nos collections. Donc ceux-là, ils ont une spécificité, c'est qu'en plus, ils sont électriques. Donc ils permettent on peut les déplacer simplement en appuyant sur un bouton. Pourquoi est-ce qu'ils sont électriques? Parce qu'on a énormément de poids. On est ici sur du stockage d'éléments pondéreux, lapidaires. Donc on a potentiellement plusieurs tonnes sur un seul et même chariot. Donc on ne pouvait pas avoir un système manuel comme on va le voir dans la réserve d'après. Là, vous avez vraiment une très bonne idée de ce que sera aussi ce type de réserve, avec un élément très important que je signale, parce que là, on voit bien que vous avez des hauteurs de ce qu'on appelle les lisses, donc les niveaux en fait de rack à palettes, qui sont différentes. Parce qu'aujourd'hui, grâce à un travail extraordinaire des départements de conservation du Louvre, on sait exactement quelle œuvre sera rangée sur quelle étagère. C'est-à-dire que quand on déménagera, on saura directement, dès qu'on aura l'œuvre en main, où est-ce qu'il faudra la poser, ce qui nous fera gagner un temps, bien sûr, énorme en termes de temps de traitement et de redéploiement et d'installation des collections sur étagères.
Et les étagères sont déjà adaptées aux œuvres qu'elles vont
Exactement. Donc on a prépositionné de manière virtuelle en fait, toute notre collection dans ces étagères. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est la bibliothèque que vous avez chez vous avec des étagères que vous déplacez et à la fin vous perdez de l'espace, ou alors vous avez un livre qui ne rentre pas et vous êtes obligé de tout enlever pour tout refaire. Et ben ça, c'est ce qu'on veut surtout éviter, parce que ça fait perdre un temps extrêmement important et on veut vraiment rendre les collections disponibles le plus rapidement possible, donc de savoir exactement où elles se trouvent et qu'elles soient accessibles. Donc c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail. Donc tous les départements du Louvre ont travaillé depuis 2 ans pour pouvoir prépositionner virtuellement toutes ces collections. Donc c'est la raison des variations de hauteur de liste que vous voyez partout. Ce n'est pas mis au hasard. Tout suit un plan global qui a été élaboré par les départements du Louvre à Paris.
Je vais juste compléter vite fait là-dessus. On a eu la chance d'avoir un programme très détaillé fourni par le Louvre au départ de l'opération. Il en a parlé un petit peu dans l'organisation des espaces, mais aussi en termes des éléments à introduire dans chaque réserve. Donc il y a un énorme travail qui s'est fait avec le Louvre pour pouvoir positionner tous ces mobiliers dans une emprise très restreinte pour limiter les surfaces à chauffer, à climatiser. Et puis ce travail se poursuit côté Louvre avec un travail extraordinaire de ce qu'il vient de le décrire, mais c'est un travail qui est assez hallucinant de notre côté, de vraiment chaque œuvre à sa place déjà à l'avance. C'est vraiment, on est très impressionné par ce travail.
S'il y a des nouveaux objets, s'il y a des mouvements, s'il y a des objets qui s'en vont et tout ça, on peut mettre un autre truc à la même place ou pas? Non.
Alors, comme on appelle ça l'adressage, le but c'est que chaque œuvre ait son adresse. Après, il est évident qu'il y a la réalité du terrain et que peut-être que l'adressage changera un jour. Mais pour un bon rangement de réserve, il faut que l'œuvre ait une place déterminée. Même quand elle part temporairement, on lui garde sa place. Après, ça ne veut pas dire que l'adressage est gravé jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'il peut être revu derrière. Mais l'objectif, c'est d'avoir une place disponible pour chaque objet.
Et c'est à quelle température ici en permanence?
Alors ici, donc là, on est sur des éléments donc pondéreux. On est sur des bornes situées entre 18 et 22 degrés et entre 40 et 60% d'humidité relative. Sachant que d'une manière générale, ce que les œuvres aiment avant tout, c'est la stabilité. Donc il ne faut surtout pas passer de 18 à 22 en une journée. Le but, c'est d'avoir une courbe la plus stable possible ou avec des variations extrêmement maîtrisées dans le temps. Donc on a ces bornes-là mini-maxi, mais ça ne veut pas dire qu'on peut passer de 18 à 22 du jour au lendemain. Il faut vraiment qu'on garde cette stabilité. Et ce bâtiment, il répond parfaitement à ce besoin-là. Hein. Comme le disait tout à l'heure Jean-Luc Martinez, en pleine canicule ici, on avait 20 degrés à l'intérieur qui faisait 40 degrés dehors alors qu'on n'avait pas encore de climatisation. C'est-à-dire qu'on sait que le bâtiment, il absorbe et il restitue progressivement. C'est exactement ce qu'on lui demande de faire. Et donc là-dessus, on est très... Depuis qu'on a des œuvres ici, on a une courbe qui ne bouge pas, où on est vraiment dans les bornes et qui ne varie pas d'un degré ni d'un pour cent.
Ces voûtes béton, les murs béton au fond et la dalle béton, ces matériaux participent à cet effet-là. C'est la masse thermique du béton qui absorbe la température ambiante et qui la restitue au long de la journée et au long des mois et des semaines qu'on a vu pendant la période de canicule.
Vous allez voir une autre réserve plus petite, vous allez voir, vous allez le sentir vraiment après qu'on commence à se tasser dans le bâtiment.
Le centre de conservation du Louvre à Liévin a été conçu par l'agence d'architectes britanniques Rogers, Sturck, Harbour & Partners. Voici un des architectes, Graham Sturck.
On aimerait remercier le Louvre et la région de nous avoir donné cette opportunité d'assister dans la conception de ce lieu, de ce foyer, pour une importante composante d'une très grande institution. Ce ne sont pas que les architectes qui sont responsables pour ce que vous voyez aujourd'hui. C'est une collaboration avec le Louvre, avec notre équipe de maîtrise d'œuvre, ingénieurs, les entreprises et innombrables spécialistes. Ensemble, nous avons créé un simple et noble espace d'environnement contrôlé pour les collections qui donne aussi de la lumière du jour et des vues à tous ceux qui vont travailler au sein de ce bâtiment. Alors que le programme du bâtiment est très sophistiqué, nous avons dessiné un bâtiment très simple qui offre de la flexibilité pour l'avenir. On espère surtout que ça donne la joie et l'inspiration à ceux qui travailleront ici. Et nous espérons que ce bâtiment sera un bâtiment dont le Louvre, les villes, la région pourront être fiers pour des décennies à venir. Et de sa manière modeste, qu'elle bénéficie de la même longévité intemporelle qu'une partie des œuvres extraordinaires qu'elle contient.
Merci beaucoup.
« visite de la dernière réserve du Centre de conservation du Louvre à Liévin avec Brice Mathieu, directeur délégué, et Amish Croquette, un des architectes.
La réserve la plus grande, on a 2400 m² dans cette réserve, qui est une réserve petit format. Donc on a 4 départements de conservation qui vont être conservés ici, donc les antiquités égyptiennes, les antiquités grecques, étrusques et romaines, les objets d'art et les sculptures. Donc chacun a des secteurs, c'est ce que vous voyez, ce que vous avez vu marqué au sol avant, pardon, vous avez des délimitations, vous avez un marquage qui rappelle le numéro des secteurs. Donc chaque département a ses propres mobiliers, donc où on a pu faire l'adressage. Le mur qu'on voit au fond est l'extrémité est du bâtiment et elle est complètement enterrée. Donc cette partie-là, de l'extérieur, quand vous venez du Louvre-Lens, vous ne la voyez pas, puisqu'on est vraiment là, sous terre, sur la partie au plus profond. Vous voyez bien qu'on est aussi beaucoup plus bas qu'au début de la visite. On voit très bien que petit à petit, on commence vraiment à tomber en termes de hauteur, parce que là, on stocke beaucoup moins haut, parce qu'on a beaucoup plus de petits objets qui sont conservés ici, dans différents types de mobilier. Donc soit des tablettes, là on est vraiment sur du rainage standard, soit des tiroirs que vous avez un petit peu partout, ou des râteliers qu'on va voir dans la réserve d'après, qui permettent de ranger en glissant des éléments comme des cadres ou des plaques de marbre. On va mieux les voir dans la réserve d'après, mais là vous avez une très bonne aussi vision des réserves petit format, avec toujours ce même principe de compactus, donc de chariot mobile, de rayonnage mobile, mais cette fois-ci manuel. Donc, c'est les volants que vous voyez placés sur les façades qui permettent aussi là de gagner de l'allée et de la surface au sol, et donc de manipuler extrêmement simplement l'ensemble de ces rayonnages.
Au rythme répété, c'est les mêmes voûtes qu'on retrouve ici, exactement les mêmes voûtes. Ça unifie tout et ça veut dire que même dans les réserves, on sent qu'on est dans un espace important, on se sent qu'on est au Louvre, on n'est pas juste dans un entrepôt. Et c'est vraiment ça qu'on a cherché à créer, cette nobilité d'espace avec cette architecture.
Donc on va finir la visite par une dernière réserve des cadres et des peintures, juste après. Donc dernière réserve qu'on vous présentera aujourd'hui, donc la réserve des peintures et des cadres. Vous voyez essentiellement des grilles, on a plus de 310 faces de grilles ici, donc qui s'ouvrent bien sûr, qui sont des grilles coulissantes, où on peut venir stocker des œuvres, donc ranger des œuvres sur le crochet. Sur donc l'ensemble des éléments que vous voyez ici permettent donc de ranger des œuvres à la fois sur cette face, mais également sur la face et sur le revers. Donc des grilles à tableau assez standards, on est sur des grilles de 5 mètres sur 4. Les éléments un peu plus particuliers, c'est les éléments que vous avez derrière vous. Donc c'est ça qu'on appelle des râteliers. Ça permet en fait de ranger comme des cadres ou des toiles ou des cartons ou des plaques de marbre dans des espaces qui permettent d'être glissés en fait sur des plaquages que vous voyez au sol juste là. Vous avez différentes tailles, parce que bien sûr on a aussi des très grands formats qui peuvent être stockés de cette manière et conservés de cette manière. Donc ça, vous avez des éléments qui n'existent pas ailleurs. C'est assez incroyable en termes de montage, c'est assez complexe aussi, puisqu'on est sur des hauteurs, vous voyez, très importantes. Parce que là, on stocke des œuvres jusqu'à 4,50 m, 5 m de haut dans ces espaces.
Et tout ça est aussi déjà paramétré?
Et on sait exactement dans chaque casier quelle œuvre va être glissée, en effet.
J'ai dit qu'il y aurait très peu de tableaux, finalement, beaucoup de tableaux resteraient au Louvre. Donc il y a beaucoup d'espace pour les tableaux, c'est des tableaux qui viendront d'où?
Les tableaux viennent, donc il y a une partie en effet des tableaux aujourd'hui dans les réserves de Paris qui vont rester à Paris. Il y a quand même environ 1000 tableaux qui vont venir ici et on a toute la collection de cadres, donc plus de 3300 cadres qui vont être transférés dans cette réserve.
Et tout de suite, un extrait du discours du ministre de la Culture, Franck Riester.
Ce qui est réalisé aujourd'hui est exceptionnel. Tant, messieurs les architectes, et à travers vous toutes vos équipes, dans le geste architectural exceptionnel, très bien intégré dans ce territoire, très bien intégré dans le paysage, très bien intégré en proximité du Louvre-Lens. Et cette décision qui permet d'avoir une œuvre architecturale exceptionnelle est une bonne décision. C'était une bonne décision aussi. Souvent, on dit que les décideurs publics n'anticipent pas assez les problèmes. Là, il s'agit bien d'une anticipation d'un éventuel problème lié aux inondations. Et évidemment, ça prend du temps. C'est le temps long qui permet de répondre à ce genre de préoccupations. Et vous avez su prendre cette décision pour sauvegarder les œuvres hors des crues. Il reste d'autres sujets en matière de crues ou en matière de sécurité incendie sur lesquels il faudra prendre des décisions, bien évidemment, où des décisions ont été prises et il faut le temps que tout ça se mette en œuvre. Mais le fait d'avoir pris cette décision permet aussi de protéger les œuvres des inondations. Et puis c'est une décision qui permet de pouvoir conserver sur le temps long ce patrimoine de l'humanité dans de bonnes conditions et le mettre à disposition d'un public le plus large possible. Bien sûr, les chercheurs, les universitaires, les conservateurs d'autres musées. C'est exceptionnel de ce point de vue-là. Ça va être un haut lieu de la recherche et de l'innovation en matière muséale. Mais ça va être aussi un endroit où nous allons pouvoir, où les équipes vont pouvoir travailler à la restauration des œuvres pour qu'on puisse les transmettre aux générations futures. Cette transmission du patrimoine de l'humanité, du patrimoine en l'occurrence des collections nationales, est essentielle. Et que ce savoir-faire, que tu as eu raison de rappeler, cher Xavier et cher Jean-Luc, toi aussi, ce savoir-faire exceptionnel des équipes du Louvre, qui font la fierté de notre pays et qui sont réclamées partout dans le monde.
Nous arrivons à la fin de la visite du centre de conservation du Louvre qui s'est installé à Liévin. Retrouvons aussi une interview de Brice Mathieu, le directeur délégué, pour plus d'explications, à commencer par l'architecture.
Qui dit cave dit voûte, et donc on est sur ce principe, il cite comme s'il avait en fait levé le terrain, parce que quand on est semi-enterré, c'est comme si on avait soulevé le terrain pour venir glisser les collections du Louvre à l'intérieur. Et donc on est vraiment sur cette idée de cave, et puis une architecture qui est largement éprouvée, hein, le principe de voûte, de poteaux et de poutres, ça fait des siècles et des siècles qu'on construit de cette manière, et on connaît la durabilité de ces méthodes de construction. Donc on sait que là on est sur du solide et du dur, et qu'on est parti pour de nombreuses années tranquilles en termes de conception du bâtiment.
Alors ce bâtiment, il va accueillir les œuvres à partir de quand ici, du Louvre? Comment ça va s'organiser ensuite maintenant que ce bâtiment est opérationnel?
Alors nous, on a travaillé en parallèle depuis plusieurs mois, années, sur la préparation de ce transfert. Donc on a fait des chantiers des collections depuis 3 ans, donc on a préparé toutes les œuvres. On a aujourd'hui à peu près 80% de la collection qui est prête à partir, donc qui attend impatiemment de venir ici. On commencera à accueillir les premières œuvres, donc les premiers camions partiront de Paris et ensuite on aura à peu près 60 semaines de transfert pour pouvoir transférer 216 camions depuis Paris et donc acheminer les 150 000 premières œuvres, puisqu'on aura différentes phases dans ce projet. On commence par les œuvres qui sont aujourd'hui les plus exposées, qui sont en zone inondable, donc on a 150 000 objets, donc on doit vider rapidement ces espaces, et donc on a 60 semaines pour le faire. Et après on continuera avec d'autres réserves externalisées que nous avons autour de Paris, puisqu'on a déjà nous mis à l'abri des collections dans des réserves externalisées, en attendant de trouver une solution pérenne. Donc on a besoin aussi, nous, à terme, de rapatrier, entre guillemets, l'ensemble de ces collections ici. Donc on est parti, nous, sur un des déménagements jusqu'à fin 2023. Aujourd'hui, les prévisions donnent cet horizon-là.
Combien y a-t-il de salles dans ce centre de conservation?
Donc on est sur un bâtiment qui fait 14 600 m² utiles. Et sur ces 14 600 m² utiles, on a 9 600 m² d'espace de réserve. Et on a 6 grandes réserves. Donc ces 9 600 sont divisées en 6 grandes réserves. Et 2 toutes petites qui sont des réserves pour les métaux, puisque des métaux ont besoin d'une hygrométrie plus basse, donc 30% d'humidité relative. Donc on a une espèce de boîte dans la boîte qui permet d'avoir une humidité encore plus basse. Donc on a 6 grandes réserves, 2 petits espaces. Et après, on a une succession donc d'ateliers de traitement et d'intervention sur les collections. On a 11 au total espaces dans ces sections ateliers, mais en fait on a aussi des bureaux dans ces espaces-là, donc on a vraiment 7 grands ateliers, petits, moyens et grands, qui permettent de traiter tout type de collections dans ces ateliers de traitement.
Est-ce que pour ce centre de conservation, vous êtes inspiré d'autres centres européens ou mondiaux, ou c'est vraiment un bâtiment qui est unique à l'échelle internationale?
Alors le principe d'avoir un centre de conservation ou d'avoir des réserves externalisées n'est pas nouveau. Il existe et c'est un modèle qui est en train de se généraliser au niveau international, au niveau national aussi. Du coup, il y a beaucoup de projets en France. Hein. La ville de Strasbourg, la ville de Poitiers, la ville de Marseille a déjà fait ce travail de réserve externalisée et centralisée. Donc le principe même n'est pas novateur. Par contre, une qualité architecturale que vous avez sous les yeux, cette qualité de finition, cette qualité d'organisation, là on est vraiment sur des dispositions qui n'existent pas ailleurs. Je peux parler là en termes d'innovation. Donc vous avez vu tout à l'heure le système de rangement sur des racks à palettes électriques, donc qui permettent de gagner beaucoup en manipulation et en espace de stockage au sol. On a aussi nous un système de détection de fuite en toiture, parce qu'on fuit l'eau à Paris. Donc le but, c'est pas de retrouver l'eau ici. Donc comme on a 17 500 m² de toiture, on a un système de détection de fuite. Donc on est les premiers en France à mettre en place ce dispositif. On a un réseau d'électrodes sur toute notre toiture. Et si jamais la première couche d'étanchéité fuit, on peut identifier à 3 m² près l'origine de la rupture de cette première couche d'étanchéité. Sachant qu'on en a une deuxième en dessous. C'est-à-dire qu'on a vraiment un millefeuille au-dessus de notre tête qui permet de garantir de manière la plus pérenne possible l'étanchéité de notre voiture, ce qui est extrêmement important évidemment pour nous.
Ce qui est sûr, c'est que le public ne pourra pas accéder, le grand public ne peut pas accéder à ce bâtiment ou même voir, imaginons, les œuvres qui y sont stockées.
Le grand public ne peut en effet pas accéder à ce bâtiment, sauf sur des opérations très ponctuelles. On l'a fait il y a 2 semaines, on a ouvert pour les Journées européennes du patrimoine. On a fait un peu une pré-inauguration pour la population et les personnes qui habitent sur le territoire. Donc on a eu plus de 300 personnes qui sont venues visiter ce site et on renouvellera l'expérience dans les années à venir, toujours à l'occasion de ces événements un petit peu particuliers. Sinon, en effet, pas de public à l'intérieur. Après, les œuvres qui sont ici, un jour, elles seront... peut-être destiné à être exposé en salle ou déposé dans un musée pour être exposé. Donc, ce ne veut pas dire, c'est pas parce que l'œuvre aujourd'hui elle est en réserve qu'elle sera invisible jusqu'à la fin des temps. Il est aussi important de mentionner que même si elle est en réserve, l'ensemble de la base de données du Louvre, donc qui s'appelle Museum Plus, donc nous on l'appellera collection en ligne pour sa publication, sera accessible à n'importe qui dans le monde. Donc on va publier nous 70% de notre collection à peu près, avec de la documentation photo et des informations sur nos œuvres. Et ça c'est la première fois que les collections du Louvre seront visibles sur Internet, puisqu'aujourd'hui, si vous cherchez une œuvre, vous n'avez accès qu'aux œuvres qui sont exposées en salle et aux arts graphiques, donc les 250 000 œuvres des arts graphiques, mais les 250 000 à 300 000 œuvres qu'on a en réserve aujourd'hui, elles n'existent pas sur Internet. Dans 3-4 mois, ça sera réglé, donc c'est important aussi en termes de visibilité des collections.
Mais à qui sera ouvert alors ce centre? Qui va travailler ici?
Ce centre est fait avant tout pour les conservateurs et les régisseurs et les documentalistes du Musée du Louvre. C'est un lieu de travail pour eux et c'est aussi un lieu de travail pour les universitaires et les conservateurs des autres musées de région, des autres pays dans le monde. Puisque qui dit publication d'une base de données en ligne dit peut-être aussi un nouvel intérêt de la part de certains chercheurs qui voudront consulter les collections que nous avons en réserve. C'est pour ça que nous aurons une salle de consultation ici pour pouvoir amener les œuvres des réserves, pour pouvoir les amener à la consultation des chercheurs nationaux et internationaux. Ce qui est sûr, c'est que personne ne rentre en réserve. Vous avez eu la chance aujourd'hui de le faire. Dès qu'on ferme ce soir, c'est terminé. Si vous n'êtes pas du Louvre, vous ne rentrez pas en réserve.
C'est l'un des objectifs d'être un modèle à suivre ?
C'est jamais un objectif d'être un modèle à suivre. En tout cas, on veut faire quelque chose de fonctionnel, de beau, je crois que vous avez la réponse. De fonctionnel, on verra concrètement, mais on a eu les premières heures qui sont arrivées et ça s'est remarquablement passé. Et je pense qu'on va être un modèle à suivre. Je ne sais pas si c'était l'objectif initial, moi je ne suis pas arrivé au tout début du projet, mais l'ensemble créé par le centre de conservation et en plus par la proximité du Louvre-Lens crée un modèle unique et après c'est l'avenir qui nous dira si on a été suivi ou pas.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de comment sont accueillies et réceptionnées les œuvres ici? C'est quoi le parcours d'une œuvre dès l'instant où elle quitte le Louvre à Paris jusqu'ici?
Donc l'œuvre est chargée dans des camions à Paris, donc elle est en réserve à Paris et donc elle va être acheminée par semi-remorque ici au centre de conservation. Et ensuite elle va avoir un chemin où elle va être sortie du camion, déballée ou pas, parce qu'il y a des œuvres qui vont être stockées, comme vous l'avez vu, directement sur leur racapette et sur leur bâti. Donc on va directement les mettre dans nos rayonnages et d'autres qui vont être déballées et installées individuellement sur étagère, ce qui va nous prendre bien sûr beaucoup plus de temps. Et donc l'œuvre vraiment elle va être... bichonner jusqu'au bout, jusqu'à un petit écrin, un petit calage lorsqu'on va la sortir de son conditionnement pour le transport.
Vous avez la capacité de restaurer ici les œuvres ?
Sur nos 1 700 m² d'atelier, donc on fait avant tout du traitement et de l'intervention sur les collections. Donc on est sur des petites interventions, on n'est pas des ateliers de restauration à proprement parler. Par contre, on a quand même un atelier qui servira à faire de la restauration fondamentale, qui est l'atelier très grand format qu'on a visité tout à l'heure, qui permet de traiter des très grandes œuvres et qu'on n'a pas la possibilité de faire ailleurs. Donc on a, nous, cette possibilité maintenant de le faire ici. Et de toute façon, on fera tout ça en partenariat très étroit avec le CDRMF, qui est le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, qui a la compétence sur l'ensemble des restaurations menées par les musées nationaux et de région, donc qui nous accompagne dans ce projet depuis le début également.
Et juste au niveau tableau, surface de gris, comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur combien de tableaux ?
Alors on a à peu près 1000 tableaux qui vont rejoindre le centre de conservation, 3300 cadres, donc on a la plus grande collection de cadres au monde, hein, qui est conservée au Louvre aujourd'hui, 3300 cadres historiques qui vont être transférés ici, et après plusieurs centaines de très grands cartons à dessin par des artistes comme Charles Lebrun, donc qui vont être, qui aujourd'hui d'ailleurs sont au Louvre-Lens, qui vont être rapatriés, pardon, j'aime pas trop ce terme, hein, mais en tout cas ramenés ici dans ce centre de conservation pour le reste de leur existence.
Surface d'étalage de gris ?
On a 14 000 m² de surface de gris et on a 27 km de rayonnage, donc de stockage horizontal.
Et au niveau juste température, voilà, hygrométrie, c'est un système très performant.
Exactement, donc le plus important dans l'hygrométrie, c'est la stabilité, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment inerte qui permet d'éviter les déperditions de chaleur, donc ça on l'a. Et après, c'est de maintenir la température, donc dans chaque réserve qu'on a vue, on a la possibilité de régler différemment la température et l'hygrométrie. Dans chaque atelier aussi, les 7 ateliers ont chacun leur propre température et hygrométrie. Donc on peut venir jouer en fonction de la typologie de collection qu'on va venir traiter à l'intérieur sur les conditions à l'intérieur de chacun des espaces. Et donc on est sur des bornes resserrées entre 18 et 22 pour les plus fragiles et entre 17 et 23 pour les éléments plus pondéreux, donc la pierre, etc., qui est moins sensible à la température et à l'hygrométrie.
On est à côté du Louvre, mais c'est sûr qu'on est dans une zone qui ne sera jamais inondée. Ou alors le bâtiment.
Rassurez-vous, la question revient souvent. On a fait de nombreuses études géologiques du sol, hein, parce qu'ici, on n'est pas en zone inondable et on a juste le sujet de la remontée de la nappe phréatique. Et on est plus de 5 mètres au-dessus de la remontée maximale de la nappe, sachant que le point le plus bas du bâtiment, il est encore 1 mètre en dessous de là où on se trouve, puisque comme on a un quai de déchargement, en fait, le quai, forcément, est un mètre au-dessus du camion. Donc, en fait, c'est si on a le déluge qui revient, au pire, si un jour on a de l'eau qui remonte, on se trouvera de toute façon dans l'aire de livraison. Donc, on n'a aucun risque d'avoir des remontées de nappe phréatique dans ces espaces. Donc, on est on est tranquille pour le reste de notre vie.
Le bâtiment est marqué justement par toute cette arrivée de lumière naturelle. J'imagine que la lumière naturelle, elle a un impact sur certaines œuvres comme l'hygrométrie, comme la température. Exactement. Comment est-ce que vous parez à ça ?
Alors justement, la lumière naturelle que vous avez sous les yeux, elle se situe dans les espaces où il n'y a pas de stockage permanent d'œuvres. Là, on se trouve dans une circulation, donc l'œuvre, elle passe ici. Ensuite, elle arrive dans les ateliers où elle est traitée, mais elle reste jamais 6 mois en pleine exposition dans un atelier de traitement. Elle est traitée et si on a besoin de la remettre en réserve le temps d'un séchage, etc., on la ramène dans sa réserve. La lumière, en effet, est un ennemi surtout du papier, des éléments organiques, un tapis, une tapisserie, vous l'avez tous vu chez vous, quand vous laissez quelque chose au soleil, ça jaunit. Et donc c'est pour ça aussi que toutes les réserves sont complètement aveugles. Donc la lumière naturelle est dans des espaces de passage, dans des espaces de travail temporaire. Par contre, dès qu'on conserve l'œuvre, qu'on la place dans un endroit où elle ne bougera plus, on est dans le noir complet.
Et moi, juste, combien de salariés en permanence ici, de ce fait-là ? Est-ce qu'il y aurait de nouvelles embauches dans l'avenir, vu la grandeur de ce centre ?
Nous, on a travaillé sur les effectifs depuis 3 ans aussi, donc on est sur quelque chose de très théorique. Hein. On est 14 à partir de cette semaine, on sera 16 l'année prochaine. Après, c'est l'avenir qui nous dira si ça suffit ou pas. Ça, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Juste vous dire qu'on a... Dans ces embauches qu'on a fait ici, on a pu travailler avec la structure qui s'appelle Proche Emploi, qui est une émanation de Pôle Emploi pour la région et pour le territoire. On a pu recruter 3 personnes grâce à Proche Emploi, donc avec qui on a très bien travaillé. Donc on a pu embaucher des personnes qui donc étaient en recherche d'emploi ou dans des situations précaires et qui ont pu rejoindre notre équipe. Et ça se passe remarquablement bien.
Et pour terminer, les discours des élus et personnalités au Centre de conservation du Louvre à Liévin, retrouvons Sylvain Robert, le président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin, aussi maire de Lens.
Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre implication sur le territoire. Vous étiez là sur un sujet fondamental qui était l'approche de la culture au plus proche de la population dans le cadre de l'inauguration des microfolies. Et vous aviez eu l'occasion d'en découvrir une à Grenay, dans le cadre de la médiathèque et de son originalité, et en même temps celle de Lens. Et aujourd'hui, vous revenez sur un sujet fondamental, notamment encore en termes de culture. On n'est plus sur la même approche du public, mais sur un enjeu fondamental de territoire. globalement, au niveau national, mais aussi pour notre territoire. Comme l'a très bien souligné Laurent, et je ne referai pas l'histoire, le tournant de ce bassin minier a été pris notamment et également avec l'axe culturel, avec l'annonce de l'arrivée du Louvre-Lens et la décision de Jacques Chirac à l'époque. Le travail avait déjà commencé avec Daniel Percheron à cette époque-là. Et on se souvient d'être allé chez votre prédécesseur, Rolly Filippetti, signer l'acte d'engagement pour dire de pouvoir travailler à cette solution sur Liévin, sur ce que pouvaient être les réserves du Louvre, ce que François Hollande a élargi à des réserves plus larges, notamment quand il était venu il y a quelques années confirmer le projet, ce qui a été confirmé aussi au niveau de la région, et c'est bien l'essentiel, c'est de voir qu'au-delà des échéances politiques, des projets structurants fondateurs comme celui-ci font fi de toutes les différences et de toutes les perspectives qui pourraient nous différencier sur des enjeux électoraux. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment dans un enjeu de territoire où l'agglomération de Lens-Liévin, et je voudrais vraiment souligner l'unanimité des élus qui ont voté l'implication et l'engagement de la collectivité pour faire don de ce terrain au Louvre et à la région, pour dire de pouvoir aussi contribuer à ce renouveau, tant en termes culturels, mais j'ai l'habitude de dire que la partie culturelle, ce n'est pas forcément notre sujet principal, on est surtout sur les déclinaisons qu'il peut y avoir, et en partenariat notamment avec la région, sur les déclinaisons économiques, et notamment le cluster d'économie culturelle et économie numérique, on est vraiment dans cette logique-là. Et quand on a les réserves, quand on a la possibilité d'avoir un joyau, comme le Louvre-Lens, un deuxième joyau qui donne une complémentarité et qui, quelque part, ancre encore plus notre territoire sur cet enjeu de culturel, cet enjeu culturel, cet enjeu économique, cet enjeu d'emploi, on ne peut que se féliciter de cette unanimité que l'on retrouve encore également aujourd'hui.
C'était la visite du Centre de conservation du Louvre à Liévin qui accueille les œuvres du Louvre Paris depuis fin 2019. Plus d'informations sur louvre.fr dans l'espace Centre de conservation du Louvre. Reportage de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensée.